Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans RFI Midi. Il est tout juste 14h à Paris.
Olivier Sherman.
La guerre entre l'Iran et Israël au 9e jour du conflit. Le site nucléaire d'Ispahan visé. Plusieurs commandants des gardiens de la révolution tués dans des frappes nocturnes. Emmanuel Macron s'est entretenu ce matin au téléphone avec le président iranien. Les négociations sur le nucléaire vont s'accélérer. Toujours dans la région, Israël affirme avoir frappé un site du Hezbollah pro-iranien de la région de Nakoura, dans le sud du Liban, au cours de la nuit. Et puis, une partie de l'Europe subit une vague de chaleur sans précédent à cette période de l'année. En France, par exemple, 16 départements placés en vigilance canicule. Les températures atteindront localement les 39 degrés.
RFI Midi.
Dans la deuxième partie d'RFI Midi, nous reviendrons justement sur le réchauffement climatique et ses conséquences avec notre invitée Valérie Masson-Delmotte, climatologue, l'une des scientifiques de renom qui a alerté cette semaine une nouvelle fois sur le réchauffement climatique. L'objectif de limiter ce réchauffement à 1,5 degré est désormais impossible à tenir. Nous verrons aussi l'impact de l'intelligence artificielle sur les transports, routes, ports, aéroports. La transformation a bien commencé. Et puis la fête de la musique ce soir à l'honneur, une fête célébrée dans plus de 100 pays.
RFI Midi.
La guerre entre l'Iran et Israël, la diplomatie se poursuit. Emmanuel Macron a téléphoné ce matin au président iranien en lui disant que les Européens vont accélérer les négociations avec son pays, que l'Iran ne devra jamais avoir l'arme nucléaire et qu'il lui appartient de donner toutes les garanties que ses intentions sont pacifiques. Emmanuel Macron a aussi, au cours de cet entretien téléphonique, exigé la libération des deux otages français, Cécile Kohler et Jacques Paris, tous les deux détenus en Iran depuis 2022, qualifiant leur détention d'inhumaine et d'injuste. La Turquie, concernant ce conflit, accuse Israël d'entraîner la région vers un désastre total. Le ministre turc des Affaires étrangères indique qu'il n'y a pas un problème palestinien, libanais, syrien, yéménite ou iranien, mais il y a clairement un problème israélien. La Turquie appelle à stopper l'agression sans limite contre l'Iran. Donald Trump, de son côté, a averti l'Iran qu'il disposait d'un délai maximum de 2 semaines pour éviter d'éventuelles frappes américaines. Israël prévient que la campagne militaire contre l'Iran sera longue, mais estime déjà que la guerre avait retardé d'au moins 2 ou 3 ans la possibilité pour Téhéran d'avoir la bombe atomique. Au niveau des frappes, au 9e jour du conflit, l'armée israélienne annonce avoir attaqué cette nuit des sites de stockage et de lancement de missiles en Iran. Le site nucléaire d'Ispahan a été visé. Confirmation de cette attaque par Téhéran, qui affirme dans le même temps qu'il n'y a aucun risque pour la population et qu'aucune fuite de matériaux n'a été signalée. L'armée israélienne dit également avoir tué 3 commandants des gardiens de la révolution dans des frappes nocturnes. Malgré la guerre ouverte avec l'Iran enclenchée il y a un peu plus d'une semaine, l'armée israélienne continue de maintenir la pression sur les autres terrains où elle est engagée, à Gaza ou en Cisjordanie occupée, mais aussi dans le sud du Liban. Oriane Verdier, bonjour.
Bonjour.
Cette nuit, l'armée israélienne annonce avoir frappé un site du Hezbollah dans le sud du Liban.
Oui, malgré le cessez-le-feu, les tirs israéliens sur le sud Liban sont presque quotidiens. L'armée israélienne affirme à chaque fois viser le Hezbollah, la milice libanaise pro-iranienne. Elle maintient également une présence dans 5 positions dites stratégiques sur le sol libanais. Les autorités libanaises ont mené plusieurs réunions de crise ces derniers jours, craignant la reprise d'un conflit de haute intensité entre le Hezbollah et Israël. Parallèlement, à Gaza, les bombardements israéliens sur la population continuent. Au moins 23 personnes sont mortes depuis ce matin, selon Al Jazeera. 11 d'entre elles étaient des travailleurs humanitaires. Au moins 43 personnes sont mortes hier, selon la défense civile de Gaza. Plus de la moitié de ces personnes ont été tuées alors qu'elles attendaient à un point de distribution d'aide humanitaire. Les décomptes de la sorte de morts et de blessés dans des situations similaires se succèdent ainsi de jour en jour. Et en Cisjordanie, occupée autre partie du territoire palestinien, les raids de l'armée israélienne et les agressions de colons palestiniens se sont également multipliées. Des assauts sont actuellement en cours dans plusieurs villes de Cisjordanie, se rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa.
Oriane Verdier du service international de RFI. Un conflit qui a des répercussions en France. La fin du salon du Bourget, ce salon international de l'aéronautique et de l'espace, ferme ses portes demain soir. Non, sans avoir échappé à une polémique en début de semaine concernant la présence d'industriels de l'armement israélien. Leurs stands ont été fermés lundi sur décision des autorités françaises car ils présentaient des armes offensives. Et aujourd'hui, syndicats et associations se mobilisent. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour.
En direct de Bobigny, donc vous êtes au nord de Paris où une manifestation contre la tenue de ce salon a lieu en ce moment même.
Oui, sous un soleil de plomb, plusieurs centaines de personnes rassemblées autour de trois mots d'ordre. Non à la présence d'industriels israéliens de l'armement, non à l'économie de guerre, non au business de la mort. Plusieurs syndicats et associations sont là. Certains représentants politiques aussi, le député LFI de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, muni de son écharpe tricolore notamment, mais aussi de nombreux habitants de Bobigny et des alentours, certains avec des keffiyehs sur la tête ou les épaules. Un des organisateurs du rassemblement nous expliquait il y a un instant avoir mené des opérations de tractage ces derniers jours dans les commerces des alentours, mais aussi dans les boîtes aux lettres pour mobiliser un maximum d'habitants et que cela faisait sens de mobiliser ici à Bobigny, commune populaire du nord de Paris. Et ce n'est pas la fermeture de plusieurs stands de l'armement israélien en début de semaine qui a apaisé la colère des manifestants qui dénoncent une mesure cosmétique, demandent un embargo total concernant l'envoi d'armes en Israël. C'est en tout cas ce que l'on entend dans les prises de parole depuis une vingtaine de minutes maintenant. Un départ d'ici quelques instants de cette manifestation vers le salon du Bourget à 5 km d'ici.
Merci beaucoup Baptiste Coulon en direct de cette manifestation donc contre la présence de l'armement israélien à ce salon du Bourget. Une vague de chaleur culmine aujourd'hui en Europe. Un vaste dôme de chaleur s'est installé sur l'Europe de l'Ouest et centrale, ce qui provoque une première envolée des températures de l'été 2025. Elle dépasse 40 degrés en Grèce, Espagne et au Portugal. En France, avec encore 16 départements placés en vigilance orange canicule, surtout dans l'ouest du pays, où les températures pourraient localement atteindre 39 degrés. Écoutez le ministre français de la Santé, Yannick Noether, qui appelle à la prudence.
C'est important de rappeler qu'on va avoir une période estivale qui va être chaude, on va avoir un été caniculaire. On voit bien que la vague arrive plus rapidement que les autres années, avec un niveau plus important, on parle de plus de 10 degrés de différence par rapport à la même période. C'est une vague de chaleur qui nous arrive de l'ouest. C'est un week-end en plus particulièrement festif parce qu'il y a la fête de la musique. Donc c'est premièrement d'anticiper, donc de pouvoir rappeler les règles essentielles, de ne pas s'exposer à la chaleur, particulièrement entre 11h du matin et 16h. C'est de pouvoir s'hydrater et de boire de l'eau parce qu'on sait très bien que chaleur et consommation d'alcool, et je dis ça puisque ce soir il y aura la fête de la musique, il faut modérer ses consommations d'alcool, particulièrement quand il fait chaud.
Yannick Noether, le ministre français de la Santé. Après plusieurs années d'âpres négociations, les États ont fini par se mettre d'accord et ont formellement approuvé hier la création d'un groupe d'experts internationaux dédié aux produits chimiques, aux déchets et à la pollution. Les États membres de l'ONU étaient réunis depuis deux jours par le programme des Nations Unies pour l'environnement en Uruguay. Comme le GIEC sur le changement climatique, ce comité scientifique devra informer et conseiller les États sur la gestion des pollutions causées par l'homme. Toutes les explications avec Jeanne Richard.
Au même titre que la crise climatique et la crise de la biodiversité, la crise des déchets et des pollutions de l'air, du sol et de l'eau sera désormais scrutée par les scientifiques partout dans le monde. Objectif de ce groupe d'experts, évaluer de manière indépendante l'ampleur de ces pollutions, identifier les lacunes en matière de connaissances, communiquer des synthèses scientifiques et des conseils d'action aux politiques et lancer des analyses prospective pour anticiper les menaces émergentes. Les gouvernements doivent maintenant définir les premiers programmes d'études de ce groupe et lancer le recrutement des scientifiques qui devront venir de tous les continents. Et leur tâche est considérable. Les produits chimiques néfastes à l'environnement et à la santé sont désormais partout dans nos quotidiens. Et d'après l'ONU, la production de déchets solides en ville devrait presque doubler pour atteindre 3,8 milliards de tonnes en 2050. Résultat, une pollution qui entraînerait déjà la mort d'environ 9 millions de personnes chaque année dans le monde, selon une étude du prestigieux journal scientifique Lancet.
Et nous reviendrons donc sur le réchauffement climatique et ses conséquences avec notre invité dans quelques instants, avec Valérie Masson-Delmotte, climatologue. Tout de suite, il est 14h10 à Paris. Les sports avec vous, Christophe Diremzian, bonjour.
Bonjour Olivier.
Alors la suite de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, deux équipes sont déjà assurées d'aller en huitième de finale.
Une sud-américaine, une européenne, Flamengo, le club de Rio, actuel leader du championnat brésilien, au riche passé puisqu'il a vu jouer des légendes comme Garrincha, Zico, Romario ou Bebeto, a validé son billet dans le groupe D au prix d'une belle victoire sur Chelsea, 3-1 à Philadelphie. Succès amplement mérité vu l'effort collectif, estime Jorginho, le milieu de terrain de Flamengo, et ironie du sort, ancien joueur de Chelsea pendant 5 ans.
Je pense que le score reflète la physionomie du match. Nous avons joué un beau football contre Chelsea. On s'est vraiment bien senti sur la pelouse. Nous étions patients lorsqu'il le fallait. Nous avons su presser au bon moment. On les a mis en difficulté. Nous avions travaillé sur leurs points faibles à l'entraînement. On y a cru tous ensemble. On a continué à pousser et ça s'est bien passé. Nous étions confiants. Les grands matchs se jouent parfois sur des détails. Mais plus globalement, on mérite cette victoire. Il fallait juste continuer à pousser. Et c'est ce que nous avons fait.
Jorginho sur DAZN, Flamengo qui aura un dernier match de groupe à jouer dans la nuit de mardi à mercredi contre Los Angeles FC qui a perdu son match de la nuit à Nashville face à l'Espérance Tunis 1-0. L'autre équipe qualifiée, c'est le Bayern Munich, vainqueur des Argentins de Boca Juniors 2-1 à Miami dans le groupe C, bien placé pour rejoindre les Bavarois en 8e, le Benfica Lisbonne qui n'a fait comme le Bayern qu'une bouchée des amateurs néo-zélandais d'Auckland City 6-0. 4 nouveaux matchs à suivre entre ce soir et la nuit prochaine. Dans le groupe F, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns affrontent le Borussia Dortmund à Cincinnati, 16h, temps universel, tandis que les Brésiliens de Fluminense sont opposés au Sud-Coréen Dulsan à 22h TU. Et dans le groupe E, l'Inter Milan face au Japonais d'Urawa Red Diamonds à Seattle, 19h TU, et les Argentins de River Plate contre les Mexicains de Monterrey à Los Angeles à 1h du matin, temps universel.
Belle soirée d'athlétisme aussi hier au stade Charletti à Paris, Christophe, à l'occasion de la 8e étape de la Ligue de Diamants.
Surtout pour Asdin Haps, le spécialiste français du demi-fond, qui a mis un sacré coup au vieux record de France du 1500 mètres. 3 minutes, 27 secondes et 49 centièmes, 6e meilleur chrono de l'histoire, et une seconde et demie de mieux que la précédente référence nationale de Mehdi Bala. Établi en 2003, vice-champion d'Europe en salle en titre, le coureur de 31 ans n'en revenait pas de ce résultat, bien au-delà de ses espérances.
C'est juste incroyable, j'ai jamais pensé courir 3,27. Je suis venu pour battre le record, courir 28,70. 80. Là, dernier 400, je sens, j'ai pensé en fait, là, je vois les temps de passage, 3,47 ou 1,200. J'ai dit non, t'es vraiment, c'est des allures incroyables. J'ai remis, j'ai senti à un moment donné George Mills ou un Kenyon revenir. J'ai dit tu dois tenir, tu dois gagner, si tu gagnes, t'as le record. Et ça a tenu jusqu'au bout. Donc le travail fait, ça commence à payer. On va continuer sur cette lancée et objectif, médaille à Tokyo.
Asdin Haps avec Frédéric Suto. Tokyo, ce sera la ville des championnats du monde d'athlétisme en septembre prochain. Moins à la fête, l'Ukrainienne Yaroslava Marouchik, record woman du monde du saut en hauteur, à Charletti justement l'an passé avec 2,10 m. Cette fois, elle a dû se contenter d'un plus modeste 1,98 m et de la deuxième place du concours derrière l'Australienne Nicola Oley-Slagers. Et puis sur 110 mètres haies, l'Américain Grant Holloway, champion olympique 2024, n'a fini que 5e d'une course remportée par son compatriote Trey Cunningham.
Enfin, le rugby. Toulouse défendra bien son titre en finale du top 14.
Eh oui, les champions de France peuvent toujours viser le triplé samedi prochain au Stade de France après avoir éliminé Bayonne 32-25 à l'issue de la première demi-finale à Lyon. La seconde, c'est ce soir au même endroit entre Bordeaux-Bègles, champion d'Europe, et Toulon.
Merci beaucoup Christophe Diremzian pour ce journal des sports très complet.
RFI Midi. Olivier Sherman.
Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est désormais impossible. Selon un collectif de scientifiques de renom, l'objectif fixé par l'accord de Paris en 2015 ne pourra pas être atteint. Pour en parler, comprendre ce réchauffement climatique, avec nous la climatologue Valérie Masson-Delmotte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes évidemment dans le collectif de scientifiques qui a alerté cette semaine sur ce dérèglement climatique. Une dizaine d'indicateurs sont dans le rouge. Avant de voir ce qui peut être envisagé et fait, surtout pour limiter la casse, commençons par le constat. Quelle est concrètement la situation ?
Oui, dans cette étude scientifique, on a simplement réactualisé un ensemble d'indicateurs de l'état du climat planétaire et de l'influence humaine. Donc, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, malgré les efforts qui ont été mis en œuvre, notamment depuis 2015 et l'accord de Paris, des émissions qui baissent dans 24 pays dans la durée, en Europe depuis les années 90, aux États-Unis depuis 2005, qui n'augmente pas en Chine sur les 12 derniers mois. Malgré cela, elle continue à augmenter dans le monde. Et de ce fait, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère continuent à augmenter. Cela piège de la chaleur. Et cette chaleur s'accumule dans le climat. Donc, une des conséquences, c'est un réchauffement. Et un réchauffement qui se produit encore plus vite du fait de l'influence humaine ces derniers 10 ans que précédemment.
Est-ce que l'on peut dire que dès la fin de la décennie, ce réchauffement à plus 1,5 degré pourrait être atteint? Et quelles alors seraient donc les conséquences?
Alors, ce qu'on peut également dire, c'est que l'année 2024 a été la plus chaude enregistrée. Pour la première fois pour une année, la température a été 1,5 degré de plus que le climat de 1850-1900 pré-industriel. Mais le niveau de réchauffement dû à l'influence humaine, il atteint jusqu'en 2024 environ 1,36 degré. Parce qu'en 2024, on a eu en plus l'effet de la variabilité spontanée du climat, l'événement El Niño de 2023-2024, une variabilité chaude dans l'océan Atlantique Nord en plus. Néanmoins, donc nous, on peut relier une cible de réchauffement avec la marge de manœuvre qui nous reste. Et donc, si on voulait limiter le réchauffement à 1,5 degré, la marge de manœuvre qui nous reste en termes d'émissions, notamment de dioxyde de carbone, ça n'est que l'équivalent de 3 ans au niveau actuel. Donc, si on regarde les promesses faites par les pays dans le cadre de l'accord de Paris, même les plus optimistes, qu'on en tient compte, on voit qu'en quelques années, inéluctablement, on aura dépassé cette marge de manœuvre. Si on prend aussi le rythme du réchauffement dû aux activités humaines, 0,27 degrés de plus, hein, rien que sur la dernière décennie, qu'on l'ajoute au réchauffement dû aux activités humaines aujourd'hui, hein, un monde déjà 1,36 degrés plus chaud, on voit qu'on atteindra, en quelques années, de l'ordre de 5 ans, ce niveau de réchauffement planétaire.
Alors, quels sont pour vous les impacts les plus graves de ce franchissement durable du seuil de 1,5 degré ?
En fait, ça n'est pas un seuil. Il faut bien comprendre qu'au moment de l'accord de Paris sur le climat, qui vise à contenir le réchauffement largement sous 2 degrés avec l'aspiration à renforcer les efforts pour le limiter à 1,5 degré, c'est fait sur la base de l'état des connaissances de l'époque concernant des risques graves. Les risques graves du réchauffement pour les écosystèmes et leur santé, les ressources en pêche, la production alimentaire, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, ou bien la montée du niveau de la mer et ses conséquences. Et chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il dope les vagues de chaleur sur des saisons plus longues, plus fréquentes, plus intenses, les plus extrêmes, qui augmentent dans un climat plus chaud, les sécheresses agricoles, parce que les sols se vident plus rapidement, avec un air plus chaud, le dégel des sols gelés, le recul de l'enneigement. Et en fait, on est déjà face à des impacts qui s'aggravent dans toutes les régions du monde.
Alors, Valérie Masson-Delmotte, vous avez contribué à plusieurs rapports du GIEC, notamment en tant que coprésidente du sixième cycle d'évaluation. Là, vous venez nous dresser un constat plutôt alarmant sur cette situation. Que doit faire
c'est
le monde?
C'est un constat réaliste.
Oui, mais justement,
c'est
que doit faire le monde maintenant?
C'est juste la réalité des faits.
Que doit faire le monde maintenant?
Alors, ce qu'on peut également dire, c'est que le réchauffement qu'on observe aujourd'hui, toutes ces caractéristiques, elles avaient été anticipées depuis des dizaines d'années par les travaux des sciences du climat. Et donc, on peut aussi caractériser les évolutions à venir. Et donc, les enjeux, c'est d'agir à la fois sur les causes, les émissions de gaz à effet de serre. Il y a une capacité à agir, elle est là, il faut l'accentuer. Et puis, bien sûr, ça, c'est pour éviter des situations ingérables. Et puis ensuite, le deuxième facteur, c'est renforcer les efforts pour l'adaptation, c'est-à-dire identifier en quoi on est vulnérable par rapport à ce climat qui change et agir pour réduire ces vulnérabilités. Et elles ne sont pas les mêmes partout. Et donc, ça demande aussi des solidarités par rapport à ces vulnérabilités inégales. Et puis, la dernière chose, on ne peut pas prévenir tous les risques par l'adaptation. Qu'est-ce qui reste? Mais il reste ce qu'on appelle des pertes et des dommages. On peut aussi dire des souffrances, en fait, lorsqu'on n'est pas prêt et lorsqu'on est touché de plein fouet par ce climat qui change vite.
La transition écologique est attaquée dans de nombreux pays comme en France, et les politiques en faveur du climat semblent bien fragilisées maintenant, notamment après le retrait des États-Unis des accords de Paris. En tant que scientifique, vous ne ressentez pas une sorte d'impuissance face à une inertie politique ?
Notre état des lieux, notre publication, c'est pour rendre à l'ensemble de la société, tous nos concitoyens partout dans le monde, Cette boussole qui permet de suivre l'état du climat planétaire, qui est un dur rappel à la réalité, une action qui n'est pas suffisante. Et ce que l'on espère, en tout cas moi ce que j'espère, c'est que l'aggravation des impacts, la prise de conscience des risques à venir, fera en sorte de motiver à une action de plus grande envergure. Et il est possible de limiter le réchauffement, mais il y a des choses qui vont être inéluctables. Et je veux juste donner l'exemple d'un des points de notre étude.
Brièvement, si vous pouvez.
Une des conséquences de l'accumulation de chaleur, dont 90% rentre dans l'océan, dont une partie fait fondre les glaces continentales, c'est la montée du niveau de la mer. Et ce qu'on montre, c'est que la montée du niveau de la mer, déjà 23 cm, se produit depuis 1900, se produit maintenant à un rythme qui accélère, on en est à plus de 4 mm par an, et ça va se poursuivre. Et donc, vraiment l'enjeu, c'est d'arriver à comprendre l'importance d'agir maintenant pour limiter, pour les jeunes générations d'aujourd'hui, l'escalade des risques liés à ce climat qui change. Et vous l'avez dit, il y a une obstruction très forte. Cette obstruction, il faut comprendre qu'elle cible même les connaissances que je viens de décrire. Des collègues américains, des agences océan-atmosphère ou de la NASA n'ont pas eu l'autorisation de participer à cette étude. On a pu nous appuyer sur les bases de données américaines cette année, réactualisées, mais on ne sait pas si ce sera le cas les années à venir. Et c'est aussi l'occasion de montrer peut-être à tout le monde à quel point ce constat scientifique, il est précieux, mais il est aussi fragile.
Il va y avoir, dernière question, aussi la création d'un groupe d'experts internationaux dédiés aux produits chimiques, aux déchets et à la pollution. C'est un nouveau GIEC, en fait. Est-ce que cela devenait indispensable, selon vous ?
Moi, je pense que fournir aux décideurs un état des lieux scientifique rigoureux, objectif et transparent, c'est quelque chose qui est important. Mais en plus de ce constat scientifique, ce qui est en plus important, c'est la capacité à en tenir compte et agir à hauteur des enjeux.
Valérie Masson-Delmotte, merci beaucoup pour votre expertise. Je rappelle que vous êtes climatologue et que vous avez contribué, bien sûr, à de nombreux rapports du GIEC.
RFI à Paris, 89 FM.
La musique à l'honneur à présent à l'occasion de la fête de la musique ce soir, de la musique pour danser, s'amuser, mais qui peut aussi avoir un rôle thérapeutique. Nous partons donc pour Vienne, en Autriche, dans la prestigieuse salle du Musikverein, temple de la musique classique connue des mélomanes du monde entier. C'est là que se déroulent des concerts pas comme les autres, des concerts souvenirs qui s'adressent aux personnes atteintes de démence. Le but est de réveiller leur mémoire à travers la musique et ses émotions. Reportage d'Isorias.
Cet après-midi, la magnifique salle Brahms du Musikverein accueille un concert un peu particulier, appelé Souvenirs, et destiné aux personnes atteintes de démence et leurs accompagnants. Ils sont plusieurs dizaines à s'installer lorsqu'un trio de jeunes musiciens commence à jouer un programme spécialement conçu pour eux, mélange de classique et de variété du XXe siècle. Une animatrice introduit chaque morceau et encourage même les spectateurs à chanter. On voit des mains en attraper d'autres, des têtes qui se posent sur l'épaule du voisin. C'est le but de ces concerts, réveiller les émotions et la mémoire des spectateurs. Paris réussi pour Elfriede, 84 ans, qui a quitté sa maison de retraite avec son accompagnant Walter.
J'ai toujours aimé me rendre à des concerts et celui-ci était beau, magnifique. J'ai aimé toutes les chansons. C'est toujours un plaisir et quelque chose de spécial au Musikverein. Je crois que je pourrais y aller tous les jours.
Par la musique, on peut toucher les personnes atteintes de démence au niveau émotionnel. Ces concerts permettent de bien travailler sur leur mémoire. Car après, on en reparle, on leur demande de quoi ils se souviennent, et alors on chante à nouveau ensemble certains morceaux du programme.
Organisés depuis 2022, ces concerts sont bien fréquentés, et pas uniquement par des personnes atteintes de démence. Peter, par exemple, accompagne son fils autiste, Alex.
Alex écoute des concerts sur YouTube toute la journée, c'est ce qui le calme. Certains autistes ne peuvent pas supporter quand il y a trop de bruit ou trop de personnes dans une salle. C'est pourquoi les gros concerts sont difficiles. Les personnes ayant des besoins particuliers ne sont malheureusement toujours pas intégrées correctement dans la société. Mais ici, on rencontre d'autres familles avec des enfants handicapés, et de nombreuses amitiés se sont déjà nouées.
Pour les musiciens aussi, cette expérience est remplie d'émotions, comme l'explique le pianiste Szymon Ogrzycek et la violoniste Susanna Budzinska, tous deux polonais.
Je me souviens que lors d'un concert où j'ai joué une aria, un spectateur, probablement un ancien chanteur, a tenu la dernière note aussi longtemps que cela est possible. J'ai donc dû moi-même tenir cette dernière note. Parfois, j'ai l'impression que je vais me mettre à pleurer. C'est vraiment fantastique.
Habituellement, le public reste assis à apprécier la musique, mais ici, certains se mettent à chanter ou à danser. Ils nous envoient une grande énergie. C'est une expérience très enrichissante, non seulement pour les artistes, mais aussi pour le public, car il est scientifiquement prouvé que la musique aide les personnes atteintes de démence.
En Autriche, environ 170 000 personnes sont actuellement atteintes de démence. Isorias, Vienne, RFI.
On reste dans la fête de la musique et on vous présente maintenant un trio de rappeurs de Belfast, Knikap. Le groupe s'est fait connaître dans son Irlande du Nord natale pour sa défense de la langue ancestrale et le refus de la présence britannique dans la province. Les trois rappeurs font l'objet d'un biopic déjanté, primé au Festival du cinéma américain de Sundance et qui vient de sortir en salle en France, tout simplement intitulé Knikap. Ce biopic alterne entre docu-fiction et comédie noire. Sophie Torlotin.
Why don't you just speak the Queen's English?
Le réalisateur Rich Pepiat a rencontré les rappeurs du groupe irlandais Knikap il y a 7 ans. Le cinéaste d'origine britannique a eu l'idée de leur proposer ce film hybride entre fiction et documentaire.
I think it's unusual.
C'est inhabituel de suivre des musiciens qui jouent leur propre rôle. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire un biopic musical quasiment en temps réel. On ne regarde pas la carrière de quelqu'un, mais l'ascension.
The band is growing.
Speak English.
This is work, Eric.
Le cinéaste filme l'engagement de ces jeunes issus des quartiers catholiques de Belfast West et qui rappent dans la langue irlandaise pour affirmer leur identité.
Ils rappent en gaélique, une langue parlée par quelques 8000 locuteurs en Irlande du Nord. À l'origine, c'est une langue de paysans. Il existe 40 mots différents pour décrire un chant, mais il n'existe pas de terme pour désigner la kétamine, une drogue de rue. Donc pour parler de leur vie, ils ont inventé le mot. Comme la kétamine est un tranquillisant pour chevaux, ils l'ont appelé Kapal, qui veut dire cheval en gaélique. Et un an plus tard, les jeunes de Belfast utilisaient ce terme.
Mo Chara, Moglai Ba, ainsi que DJ Provey sont nés ou ont grandi après le cessez-le-feu de 1998 qui a mis fin à des décennies de guerre civile entre catholiques irlandais et unionistes protestants favorables au maintien dans le Royaume-Uni. Pour Knikap, rapper en gaélique est une façon de dénoncer le colonialisme de la puissance britannique.
Knikap représente les enfants du cessez-le-feu. Les problèmes sociaux, la pauvreté et la consommation de drogue sont des mots toujours actuels. Dans le film, on parle des traumas transgénérationnels, ces traumatismes dont on hérite dans ses gènes.
Une attitude rebelle qui peut aller loin. Mo Chara a ainsi comparu cette semaine devant un tribunal de Londres pour avoir arboré un drapeau du Hezbollah au cours d'un concert. Rich Pepiat.
À chaque fois, on se dit qu'ils sont aller trop loin et que leurs provocations vont signer la fin du groupe. Mais leur aura ne fait qu'augmenter, car ils ne recherchent pas le succès ou l'argent. Ils ont un engagement politique et restent attachés à leur communauté.
Si plusieurs des concerts de Knikap ont depuis été annulés, le groupe, soutenu par de grands noms comme Massive Attack ou Pulp, reste à l'affiche du grand festival anglais de Glastonbury le 28 juin prochain.
Les rappeurs de Belfast, Knikap, profitez bien de cette fête de la musique ce soir. Il va y avoir des concerts un peu partout. Cette fête de la musique est célébrée dans une centaine de pays ce 21 juin. Un concert gratuit célèbre la fête de la musique à Paris avec un point d'orgue, le retour de la vasque olympique qui va s'élever dans le ciel avec de la musique sous une très forte chaleur.
Cardavera da Wallamahi buzzer da viola kai sheer couple of boomer Ismara will go
such a beef fog if I bump on my car. Catch me here out of her sure car will end her. Could have varied the wall of my buzz or the viola kai sheer couple of plumber. It's my will cause your beef fog if I bump on car. Catch me here out of her sure car will end her.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Retour sur une production cinématographique méconnue, une histoire d'archives en exil et une certaine idée du cinéma comme moyen de représentation d'un peuple par lui-même. Palestine, filmée pour exister, c'est un nouvel épisode documentaire de La marche du monde, signé Maxime Grandbert.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À tout à l'heure, à 14h10, temps universel sur RFI.